Vous écoutez le Serment d'Hippocrate, un podcast où l'on parle des choses qui affectent notre santé mais ne se trouvent pas en pharmacie. Ici, on s'intéresse à l'alimentation, au sommeil, à la méditation ou à l'activité physique. Tout ce qui a un impact profond sur notre santé est bon à découvrir, étudier et discuter. On y trouve des médecins, des professionnels de la santé, des experts, mais aussi monsieur et madame tout le monde, parce que la santé est souvent une aventure personnelle. Bienvenue au Serment d'Hippocrate, je suis votre hôte Ben Violo, coach santé spécialisé dans la rééducation alimentaire et le mouvement naturel du corps. Je suis très heureux de vous retrouver après 3 mois d'absence. Cette année 2020 ayant complètement chamboulé mon planning et forcé à prolonger la pause estivale bien au-delà de la rentrée. Pour fêter ce retour, je vous ai concocté un véritable pot-au-feu d'invités, tous plus passionnants les uns que les autres. Et pour ouvrir le bal, j'accueille aujourd'hui Nicolas Robin, le passionné de cuisine cétogène qui se cache derrière le blog et le compte Instagram Les Keto Frenchies. Il nous parle de comment il s'est trouvé une passion pour cette alimentation et de comment il en fait son passe-temps. Ce podcast, c'est l'occasion rêvée de vous remettre dans vos casseroles et de vous faire du bien. N'oubliez pas de suivre l'émission sur Instagram, @serment d'hypocrite, tout attaché, ou sur la page Facebook de l'émission, et d'aller laisser une note Apple Podcast, parce que ça nous crédibilise lorsqu'on contacte les invités. Allez, c'est parti pour l'émission. Bienvenue Nicolas, bienvenue au Serment d'Hypocrite, merci d'avoir accepté mon invitation.
Merci à toi de m'avoir invité.
Tu es un des deux fondateurs, mais désormais le seul gérant des Keto Frenchies, qui est donc un compte Instagram et un blog dédié à la cuisine cétogène. Hein, mais en parallèle, enfin, tu fais pas ça à plein temps, toi, c'est ton loisir en fait. T'es doctorant en droit, c'est ça?
C'est ça.
Donc, dis-nous un petit peu qui tu es, qu'on puisse te cerner un petit peu, et puis on rentrera un petit peu sur le pourquoi du blog et de ton activité.
Écoute, je te remercie encore de m'avoir invité. Je m'appelle Nicolas, j'ai 28 ans, je suis de Marseille. Et donc, comme tu l'as dit, je suis en doctorat de droit et mon activité sur les réseaux sociaux et sur mon site internet, c'est clairement accessoire et c'est une passion, c'est pas du tout un métier ni une activité qui a autre vocation que de partager ma cuisine et mes astuces, etc. Comment je suis arrivé à faire cette page-là? Alors, c'était pas du tout quelque chose qui était prévu et qui était réfléchi de base. C'était au sport, dans ma salle de CrossFit, parce que je fais du CrossFit. J'ai mon coach qui avait lancé un défi sur la page de la salle de sport, un défi de 1 mois sans sucre. Alors moi, au début, tout bêtement, moi, dès qu'il lance des défis en général, je dis oui. Et donc là, je me suis lancé, mais au bout de quelques jours, je me suis quand même dit, attends, il y a quand même un truc qui m'intrigue. Pourquoi il me dit de faire 1 mois sans sucre, alors que ça fait des années et des années que je me tue à acheter tous les produits des magasins où il y a écrit zéro gras, zéro gras, zéro gras. Et on m'a jamais dit achète sans sucre.
Ouais.
Alors je savais qu'il fallait pas boire de coca, etc. Mais je mettais dans ma tête ce qu'il fallait éliminer quand on voulait avoir une alimentation plus saine, c'était le gras. Et donc du coup, j'ai commencé à me dire mais c'est intriguant. Et c'est là que je me suis documenté. J'ai commencé à me documenter sur le sans sucre. Et je suis tombé sur le grand livre de l'alimentation cétogène, qui est un livre que pas mal de monde a pu lire. Et c'est là que je me suis rendu compte que le vrai problème pour beaucoup de personnes en tout cas, et que beaucoup de personnes ignorent. Et que j'ignorais aussi, c'était pas tant les matières grasses, mais au contraire le sucre et plus précisément les glucides. Parce qu'au début, moi, je sais pas trop la nuance entre glucides, sucre. Enfin, pour moi, c'était quelque chose d'assez flou, comme les macronutriments. Pour moi, voilà, il y avait le gras et le pas gras. Ça s'arrêtait là.
Ouais. On a vu un commentaire là-dessus sur un podcast précédent. On a une diététicienne nutritionniste qui était venue intervenir et qui avait tenu à souligner, donc c'est Magali Walkovic pour resituer,
ouais,
elle avait tenu à souligner que ce qu'on appelle, enfin le fait de différencier sucre et glucides est une erreur, ou en tout cas mène à confusion, ça prête à confusion, parce que justement, les glucides en fait c'est une famille de macronutriments auxquels appartient le sucre, mais quoi qu'il arrive, dès lors que ça passe enfin, la barrière intestinale, c'est du glucose. Donc en fait, tous les glucides deviennent la même chose au bout du compte.
Totalement. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui revient très régulièrement. Moi, quand j'ai des amis qui sont tout contents, et je les remercie d'ailleurs quand je vais chez eux de me dire, ah tiens, je t'ai fait un truc sans sucre. Parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à assimiler. J'ai beau leur dire, hein, c'est sans glucides. Eux, ils retiennent qu'une seule chose, le sucre. Et donc, en fait, mais je les comprends parce que moi, à l'époque où je faisais, entre guillemets, je faisais attention, mais sans savoir, en fait, sans m'être vraiment documenté, et que je te disais que je faisais attention au gras, je faisais aussi attention au sucre. Et effectivement, dès que je voyais écrit zéro sucre sur l'emballage, bah, je me disais banco. C'est le cas quasiment des flocons d'avoine, etc. Il y a toujours écrit zéro sucre, zéro sucre, zéro sucre. Sauf qu'en fait, quand on lit l'étiquette, il y a 76% de glucides. Hein, je veux dire. Et donc, en fait, c'est pareil. Mais ça, quand tu ne le sais pas et que tu n'arrives pas à l'assimiler, c'est une gymnastique qui, maintenant, moi, me paraît tellement évidente que quand je parle aux gens, je me dis, mais pourtant, ça me paraît clair. Mais en fait, pour le commun des gens qui s'intéressent pas forcément à la nutrition, c'est pas quelque chose de clair du tout, en fait. Ils vont être plein de bonne volonté et ils vont te faire un dessert en te disant, ah, j'ai pas mis de sucre. Sauf qu'ils ont utilisé de la farine de sarrasin et pour eux, il n'y a pas de sucre, donc tout va bien. Mais en fait, non, parce que comme tu le dis, in fine, dans le sang, c'est la même chose. C'est juste la vitesse d'absorption qui va changer. Mais ça sera exactement les mêmes effets sur la glycémie, l'insuline et le stockage de fer.
C'est exactement ça, et c'est ce truc de vitesse d'absorption en fait, c'est juste ça qui va changer. Et je pense que c'est pour ça que on a fait quelques épisodes, on a vachement parlé d'indice glycémique, qui du coup est juste le chiffre, enfin c'est un chiffre sur 100, qui nous permet de comprendre un peu où se situe un aliment, parce que enfin est-ce que moi je sais faire la différence entre un flocon d'avoine complet et je sais pas, de la farine T55, bon, pas trop, je pourrais pas te dire, mais par contre, si tu me donnes un chiffre, tu vois, une valeur sur cette échelle de 100, bah, je comprends mieux, je fais ok, d'accord, donc il y en a un effectivement qui est beaucoup plus long à assimiler, ça reste des glucides, glucides, sucre et compagnie, c'est essentiellement plus ou moins un peu interchangeable comme terme, mais avec ces notions d'indice glycémique, bah, c'est vrai qu'on comprend un petit peu mieux, quoi.
Bah c'est déjà un premier pas vers une compréhension du fait que la problématique, c'est l'insuline et le pic d'insuline. Et donc, en réduisant l'index glycémique, on essaie de réduire ces pics d'insuline. Donc, on est déjà dans une démarche quand même qui tend in fine toujours vers cette démarche de stabiliser la glycémie et l'insuline.
Alors je me rends compte qu'on est parti même un peu vite en fait, parce qu'on est quand même allé directement dans le cétogène etc. Mais c'est vrai que ça serait peut-être pas mal d'expliquer un petit peu ce que c'est. C'est-à-dire que ça, alors ceux qui écoutent le podcast depuis un moment sauront déjà, parce qu'on l'a défini plein de fois, mais ça se trouve pour quelqu'un, c'est leur premier épisode ou c'est la première fois qu'ils entendent parler. Ils disent de quoi ils parlent, de céto, de c'est quoi ce truc, cétogène, c'est génique, c'est une thérapie génique de l'alimentation, qu'est-ce qu'ils ont, c'est quoi ces gens bizarres. Enfin, moi je te donne ma définition et tu me diras ce que t'en penses, mais pour moi l'alimentation cétogène, c'est effectivement une alimentation qui est allégée en sucre, c'est de manière enfin assez poussée. Enfin, le cétogène, c'est vraiment, lorsqu'on parle de régime, c'est son minimum absolu, c'est-à-dire qu'on est enfin, si on pouvait faire du zéro, ça serait idéal. Mais c'est surtout, on se concentre du coup plus sur les lipides et les protéines comme source d'alimentation, de manière primaire, quoi. Enfin, c'est eux qui doivent être le plus dominant, et pour donner des ratios de ce que moi je vois le plus, enfin, le ratio classique, c'est tirer son apport énergétique à 70% de lipides, 30%, ouais, 25-30% de protéines, et ensuite, bah, du coup, il y a une marge de 5% pour les glucides. Ça, c'est pour moi, c'est vraiment le régime céto un peu de base, mais on peut pas vraiment, enfin, c'est pas non plus une formule absolue, quoi. Déjà, parce que je pense que c'est un peu différent pour tout le monde. Toi, tu le vois comment?
Bah, c'est exactement ça. Alors, je vais juste reprendre parce que justement, encore une fois, il y a la confusion qui se fait, mais on l'a expliqué tout à l'heure, donc les gens vont comprendre. Mais le but, effectivement, c'est une alimentation faible en glucides et pas uniquement en sucre. Parce que si on enlève juste les sucres mais qu'on continue les glucides, ça n'a pas de sens. Mais effectivement, c'est ça en fait. Au lieu de tirer notre énergie du glucose, on va quasiment le supprimer. En réalité, en général, on estime qu'en dessous de 20 grammes de glucides, et ça c'est pareil, c'est un chiffre brut. Pour certaines personnes, 30 grammes, ça suffira. Pour d'autres, 40 grammes, ça sera encore du cétogène,
Très
etc.
bien.
Mais on donne 20 parce qu'on estime qu'en dessous de 20, mais il faut pas le prendre au pied de la lettre. Faut se tester, faut jauger sa sensation, etc. mais en dessous de 20 grammes de glucides. Et le reste, effectivement, c'est réparti entre les lipides et les protéines. Et les lipides, oui, ça oscille entre 70 et 80% de notre apport énergétique. Et les protéines, entre 15 et 25, certains disent 30, certains disent plus. Il y a différentes écoles à ce propos. Moi, j'ai tendance, effectivement, personnellement, à avoir un apport en protéines qui est un peu plus élevé que la moyenne et un apport en lipides un peu plus réduit que la moyenne. Donc, je suis pas forcément dans ces ratios stricts qu'on conseille aux gens au départ. Mais aussi, je peux me le permettre parce que ça fait longtemps que je le fais. Ça fait plus de, je l'ai pas dit, ça fait 5 ans que je le fais. Donc, mon corps, il est adapté. Donc, il sait qu'il fonctionne aux lipides et donc, il va savoir aller les chercher, même si je ne les ingère pas. Et c'est vrai que ça, c'est un problème qui est assez récurrent chez tous les gens qui se lancent. C'est que ils voudraient, dès la première semaine, se mettre en déficit calorique pour perdre des kilos. Sauf qu'il y a des étapes à respecter. Et effectivement, une des premières étapes, c'est de passer par celle que tu as dit en termes de répartition. C'est-à-dire vraiment s'en tenir absolument à 80, 15 ou 75, 20 et 5% de glucides, enfin 20 grammes grosso modo maximum.
Et d'ailleurs, ce qu'il faut, je pense, un truc qui est important de préciser, c'est que aujourd'hui, on parle vachement du régime cétogène, mais c'est pas du tout un truc nouveau, mais vraiment, vraiment pas nouveau, puisque au siècle dernier, au début du siècle dernier, on utilisait déjà je sais pas si c'était appelé cétogène, mais on utilisait ce genre de protocole pour les diabétiques de type 1, parce qu'à l'époque, on pouvait pas faire d'insuline, enfin, l'insuline de synthèse n'était pas commune en tout cas. Et du coup, c'était, si t'avais pas accès à l'insuline, tu pouvais pas te permettre de manger de sucre parce que sinon tu ferais une hyperglycémie et tu pourrais en mourir parce que c'est en gros un empoisonnement au sucre. Et c'était ce genre de protocole que les gens suivaient. Alors à l'époque, les diabétiques de type 1 vivaient des vies un peu plus courtes, c'est sûr, parce que c'était quand même très difficile. Mais c'est ce genre de protocole en fait qu'on suivait. Et ça fonctionnait en fait pour les gens. Donc c'est pas un truc nouveau, j'en entends parler comme la dernière tendance.
Non, totalement. Et c'était aussi utilisé depuis très longtemps, depuis les années 50, pour les personnes, notamment les enfants épileptiques, dont la maladie était réfractaire au traitement. Et c'est d'ailleurs toujours le cas. Hein, c'est toujours protocolisé dans certains hôpitaux pour les enfants qui sont épileptiques. Et chez qui on observe des résultats qui sont vachement intéressants. D'ailleurs, moi, j'ai pas mal de personnes qui me suivent, notamment des mamans d'enfants qui sont épileptiques et qui me disent à chaque fois « Ah, merci, parce que ça me permet de faire des choses un peu qui sortent de l'ordinaire pour mes enfants, pour ma fille ou pour mon fils en question. » Parce qu'effectivement, les pauvres enfants, le problème, c'est qu'à l'hôpital, c'est protocolisé. Donc, qui dit protocole, dit « Ils sont pas à la recherche de quelque chose qui va donner envie. Donc, ils doivent avoir tant de grammes d'huile dans la journée. » Elle me dit, moi, ça me fait de la peine de peser l'huile et de le mettre dans l'assiette parce qu'il faut que le ratio il soit comme ceci, comme cela. Ouais. Et donc, ils sont un peu en recherche d'idées pour que l'enfant soit un peu plus comme les autres, soit pas totalement exclu quand il voit ses collègues manger des Kinder Bueno ou des Mars ou des Twix.
C'est vrai que ça, l'idée de trop encadrer son alimentation. C'est sûr que ça peut être quelque chose de très frustrant, et la notion de faire quelque chose de super strict, hein, parfois ça peut être nécessaire, t'as un besoin thérapeutique, et c'est pour ça que dans le secteur médical, effectivement, lorsque c'est appliqué, ils sont extrêmement tatillons sur les ratios, et les quantités, le nombre de calories, c'est sûr que quand tu fais ça à la maison, peser ton assiette jusqu'à la fin de tes jours, ça devient pénible. C'est-à-dire le faire par période, pourquoi pas, tu vois. Si on te dit, ok, il faut que tu fasses ça sur 3 mois, tu vois. Tu vas dire, bon, d'accord, 3 mois, ça va. Mais si on te dit ça, que c'est parti pour c'est parti pour 20 ans, ça devient chiant, tu vois. Donc, tu peux pas, tous les soirs, tu peux pas rentrer chez toi après avoir bossé toute la journée et te dire, alors, il faut bien que je pèse. Ah non, il faut que j'enlève un peu de ça, tu vois. Enfin, ça peut être usant, quoi.
Mais totalement. Et d'ailleurs, c'est ce qui effraie pas mal de monde parce qu'en fait, On parle tellement des macronutriments sur tous les sites, les forums, etc. Moi, le premier, parce que je dis pour comprendre les bases, il faut en parler. Mais que du coup, je reçois plein de messages de personnes qui me disent mais moi, ça me stresse, comment je fais pour calculer, machin, etc. Enfin, je leur explique que déjà, d'une part, si jamais ils le font dans un simple but de style de vie, ou lifestyle, comme on dit un peu partout, faut pas se prendre la tête. Il y a une valeur qui est importante, c'est les glucides. Faut faire attention à ça. Éventuellement, au début, effectivement, peser parce que on a besoin de se rendre compte, parce que on se rend pas compte quand on n'y connaît rien, combien il y a de glucides dans des courgettes, dans des potimarrons, parce qu'il y a des légumes plus ou moins riches en glucides. Mais ça, une fois qu'on l'a fait une fois, on a vu combien il y en avait. Et donc, moi, je sais, enfin, moi, maintenant, je connais la valeur glucidique de à peu près tous les légumes, à force de les avoir regardés, sur Cical ou sur une application. Et puis maintenant, je fais à l'œil. Et je pèse rien parce que j'ai pas d'objectif thérapeutique. Donc je recherche pas une cétose profonde parce qu'en gros c'est ça la problématique qu'ont les personnes qui le suivent dans un but thérapeutique, c'est qu'eux ils ont besoin d'avoir une cétose profonde pour que ça soit efficace. Mais quand on a il y a beaucoup de personnes qui vantent les mérites comment appelle-t-on ça, des matériels de cétonémie et de glycémie. Alors moi je l'ai fait parce que j'étais curieux et puis c'est presque rigolo, alors qu'en réalité c'est tout sauf rigolo, mais de se piquer le doigt et de regarder les valeurs. Mais au début je l'ai fait parce que ça nous rassure, on se dit bon ok je fais les choses bien. Mais par contre il y a des gens qui se disent ah oh là là mais j'ai pas les moyens, ça coûte une fortune, je peux pas. Mais ne l'achète pas, il y a aucune obligation de l'acheter. En fait je pense que vraiment la meilleure des solutions pour savoir si on applique l'alimentation cétogène. J'aime pas trop dire régime parce que dans la tête des gens, c'est pour maigrir. Dans moi, ça fait 5 ans, je suis devenu un cadavre, hein, si jamais c'est pour maigrir. Et c'est de voir en fait sur soi-même comment ça fonctionne. Si on se rend compte que tout va bien, qu'on n'a pas de baisse de tension, qu'on s'évanouit pas dès qu'on fait 4 pas, c'est qu'a priori tout va bien. Donc si tout va bien, c'est qu'on applique le régime correctement. Dès lors qu'on dépasse pas les 20 grammes de glucides, qu'on va bien, qu'on fait du sport, qu'on n'observe pas de conséquences néfastes, où est le problème? Il n'y a pas besoin d'être aussi précis, d'aller calculer, peser chaque gramme. Ah mince, j'ai dépassé mes protéines, c'est grave. Non, il n'y a pas de problème à ça.
C'est intéressant ce que tu dis justement sur cette idée de différencier le côté régime et alimentation, parce qu'en fait, effectivement, le régime, c'est un truc que tu inscris dans une durée. Donc tu pars du principe que bah c'est quelque chose qui va s'arrêter en fait. Donc je vais le faire un certain temps. C'est effectivement on peut l'adresser comme ça. Alors qu'effectivement moi j'aime bien parler de transition alimentaire, qui est plutôt l'idée que bah je cherche en fait à me rapprocher de mon alimentation quelque part, à créer une nouvelle relation avec mon alimentation. Et souvent lorsque je me retrouve à parler de ça avec les gens avec lesquels je travaille, on est plutôt dans la logique de commençons par faire un sevrage des choses qu'on sait être addictives. Donc on les retire pour l'instant, on regarde les réactions, de quoi est-ce qu'on a vraiment envie, enfin, on cherche à les enlever dans une démarche vraiment juste de sevrage. Et on voit du coup enfin, les choses dont on a des envies immédiates, donc souvent bien sûr le sucre, on voit le chocolat venir, ça peut être le café, les choses comme ça. Et on le fait juste sur une petite échelle, hein, pas très longtemps, hein, max 15 jours, hein, mais c'est pour se rendre compte. Hein. Et ensuite on cherche à réintroduire. Donc qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas? Et l'idée c'est vraiment de se faire une rééducation alimentaire. Mais on fait pas juste table rase, tu vois. On se concentre sur des choses qu'on aime. Et du coup on va dire bah ok, pendant 15 jours je vais peut-être pas avoir une super variété alimentaire, mais en tout cas je vais manger des trucs que j'aime bien et que on sait me feront du bien. Et tu vois, comme ça tu te concentres plus sur le plaisir que tu vas avoir pendant 15 jours. Je sais pas, t'aimes la côte de Haut, bah vas-y, c'est parti. Tu vois, c'est 15 jours à en faire une fois tous les 2 jours, et puis il y a un autre truc que t'aimes bien, on l'insère entre les deux. Bon, ok. Peut-être qu'au bout de 15 jours, t'en as marre. Peut-être que les gratins de chou-fleur, t'en auras un petit peu marre, mais bon, en attendant, pendant 15 jours, on a pu faire un vrai sevrage. Et du coup, tu peux vraiment partir d'une base un peu plus propre. Pour ensuite te dire ok, maintenant je réintègre des choses, qu'est-ce qui marche bien pour moi, qu'est-ce qui marche pas bien, et t'es pas obligé de le mesurer parce que tu vas là vachement plus l'avoir la sensation, parce que t'as retiré un peu le brouillage sonore en fait, parce qu'on est tous accro à des trucs, genre moi je suis complètement accro au café, je m'en cache pas, mais tu vois, enfin je mais de temps en temps ça m'arrive de pas en boire pour des raisons complètement, enfin, jamais vraiment voulu, mais juste le hasard. Et je fais, putain, ça fait du bien quand même. C'est bien de plus être,
Oui, c'est
de
ça.
plus être accro à ta tasse, tu vois, le matin. Mais bon, ça m'empêche pas d'y retourner juste après. Hein, pas. Mais ce truc, ouais,
Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi.
ce truc de transition, voilà. Moi, j'aime, en tout cas, pour revenir là-dessus, c'est différencier régime et alimentation. Et une alimentation, c'est quelque chose que tu peux inscrire sur le long terme. Et peut-être que ça commence par un régime cétogène, qu'ensuite tu transitionnes en alimentation faible en glucides, par exemple, qui est peut-être moins stricte du coup.
C'est ça, c'est ça. Bah après, moi, je sais que je reste en cétogène parce que c'est comme ça que je vois les choses et que pour moi, c'est ce qui est le meilleur pour la santé. Mais effectivement, certaines personnes ensuite basculent en low carb, c'est ce que certains appellent le cétogène laxiste. Mais il n'y a pas d'obligation de continuer en cétogène strict toute sa vie, ça c'est sûr. Le simple fait qu'on ait compris que les glucides étaient, en tout cas, moi, c'est ce que je pense, néfastes pour la santé. Ça suffit. Si demain on mange 50 grammes de glucides, mais que on a compris qu'il fallait éviter, enfin, on sera toujours dans une bonne démarche en réalité. Et donc, ça fonctionnera.
Revenons un petit peu sur ton parcours avec ça, parce que du coup, on a parlé un petit peu de cette idée de découverte et de transition. Comment toi tu l'as vécu? Parce que du coup, toi, à la base, tu te fais ce petit défi sans sucre et tu commences à te poser des questions dessus. Mais lorsque tu passes vraiment au céto, comment est-ce que tu vis en fait comment est-ce que tu vis cette transition?
Je la vis assez simplement parce qu'en fait, le premier mois sans sucre s'est très bien passé. Et après, il a fait un palier numéro 2 où il a dit d'enlever les glucides. Alors là, je me suis dit, oula. Par contre, enlever les pâtes, enlever le riz. Enfin, moi, je suis d'origine asiatique. Le riz, ça faisait partie de ma vie. Et je me suis dit, bon, on va essayer. Et en fait, du coup, je me suis empressé d'acheter plein de bouquins pour trouver des idées de recettes. Et j'ai trouvé plein de recettes. Où je me rends compte qu'on pouvait remplacer. Parce que c'est vrai qu'on a souvent ce besoin, je l'avoue que je l'ai encore des fois, hein, de transposer des choses qu'on mangeait avant dans l'alimentation cétogène. C'est-à-dire qu'on a envie d'avoir visuellement dans l'assiette quelque chose qui ressemble à du riz. Et donc j'ai vu qu'il y avait des riz de chou-fleur qui marchaient vachement bien. Donc en fait, ma transition, je pense qu'elle a été facilitée par le fait que je trouve des alternatives qui permettent de reproduire des choses glucidiques, mais qui ne l'étaient pas en réalité, un peu un trompe-l'œil finalement. A posteriori, je me rends compte que maintenant, je me contrefous que le chou-fleur, il ait la forme de riz ou qu'il soit en fleurette. Mais c'est vrai qu'il y a le fait d'avoir des alternatives céto à des choses qui ne l'étaient pas, m'a vachement aidé dans ma transition. Et puis en plus, pour revenir à ce qu'on disait, c'est vrai qu'en plus, moi, je suis pas rentré. Alors que c'est vrai que malgré tout, beaucoup de personnes rentrent dans l'alimentation cétogène lorsqu'elles sont en surpoids. Moi, personnellement, c'était pas mon cas. J'étais peut-être un peu plus gros, ça oui, il n'y a pas de souci. J'ai quoi, 5-6 kilos de plus, mais je l'ai pas fait dans une optique de perte de poids. Alors la perte de poids, elle a été naturelle en fait, parce que du coup, je me suis retrouvé à mon poids de forme qui ne bouge pas actuellement. Mais il n'y avait pas cette optique-là vraiment. C'est que une fois qu'il a lancé ce défi-là, je me suis documenté et je me suis rendu compte que c'était mauvais pour la santé. Comme un fumeur qui se rend compte que la cigarette, c'est mauvais pour la santé, moi je me suis rendu compte et je me suis dit waouh, en fait je me bousille la santé à manger tous ces trucs-là et faut arrêter quoi. Et je l'ai fait vraiment dans une optique de santé. Et donc d'ailleurs ça je rebondis parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent faut vite que tu me donnes une idée de recette sucrée là parce que je suis frustré, je vois tout le monde manger des Kinder Bueno, des ceci, des cela, je vais craquer, etc. Et moi je leur dis mais en fait moi ça effectivement je l'ai eu au début. Alors je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais ça a commencé en fait à disparaître à partir du moment où j'ai vraiment accepté et que j'ai vraiment compris que les glucides c'était mauvais. Et donc en fait, au même titre finalement que quelqu'un qui arrête la cigarette parce qu'en fait il a compris que c'était mauvais, il se lève pas tous les matins au bout de 3 mois en disant ben, il faut que je fume, il faut que je fume. Non, en fait il a compris que c'est mauvais, il a arrêté, il a arrêté, c'est fini. Et ben moi, depuis que j'ai compris que les glucides c'était mauvais, en fait j'ai pas de frustration quand je vois quelqu'un en manger. Au contraire, enfin, c'est pas que j'ai de la peine, mais c'est que je me dis là j'aimerais bien que lui il arrive à avoir cette prise de conscience et qu'il arrête de se flinguer la santé. Au contraire, c'est plutôt une fierté de me dire que moi il est devant moi et bah j'en ai pas envie parce que j'estime que c'est pas bon et donc du coup je vais pas en avoir envie que de la frustration. La frustration elle disparaît je pense une fois qu'on a compris qu'on le faisait dans un but d'amélioration de sa santé. Au même titre, voilà, qu'on arrête le tabac ou qu'on arrête des choses qui sont néfastes pour la santé.
Bah après, le sujet de
Et d'ailleurs,
l'addiction
j'aime
est peut-être
bien.
plus complexe que ça, mais je vois tout à fait ce que
Oui,
tu veux, ouais.
mais ce que je veux dire,
Ouais.
c'est qu'au-delà de l'addiction, là, hein, je parle juste du principe même, en fait. D'ailleurs,
Ouais.
c'est quelque chose que j'aime bien dire aux gens, parce que ça, c'est quelque chose qui est autant, on va peut-être en parler après de la vie en société avec ce régime-là, mais c'est quelque chose souvent, des fois, par exemple, tu vas au restaurant, tout le monde, toi en dessert, bon, tu vas prendre ton fromage, etc., et tout le monde goûte, prend un dessert, un tiramisu, un ceci, un cela, et il y en a plein qui te font, vas-y, goûte, et tu leur dis non, et ils font, ah, c'est bon pour une fois. Mais est-ce que tu vas voir un fumeur qui a arrêté de fumer depuis un an, et tu lui dis, tiens, vas-y, fume. Ah, oh, ça va, une cigarette, bah non. Enfin, pour
Exactement.
moi, c'est au même niveau, en fait. Et c'est. Non, pour moi, c'est pas bon, laissez-moi tranquille.
Ouais, bah c'est ça, c'est un. Je sais plus avec qui on avait parlé de ça, mais c'est tout à fait quelque chose que j'ai pu voir. En tout cas, il y a une vraie. Les gens pensent que tu te prives, et en fait, c'est juste d'avoir reprioriser en fait ton alimentation. C'est-à-dire que tu vas te dire bah moi me faire plaisir maintenant c'est plus un cupcake en fait. C'est autre chose.
C'est
C'est
exactement ça.
genre par exemple là j'ai un... moi je trouve que enfin je prends un exemple qui m'est propre hein, mais sur mon propre parcours mais j'avais pendant longtemps je consommais encore un peu de chocolat et finalement j'ai arrêté et en fait j'ai redécouvert le plaisir du chocolat via le 100%. Et dès lors qu'il est sucré, je trouve que c'est, enfin, et du, enfin, dès lors qu'il est sucré, je trouve que ça dénature un peu le truc. Mais découvrir un bon chocolat 100%, ça, c'est appréciable. Après, parce qu'il n'y a pas le sucre dedans, je suis moins mordu du truc. C'est-à-dire que de temps en temps, c'est sympa. Mais à l'époque où je faisais toujours du 85, ou du 90, des trucs comme ça, il y avait un truc d'addiction, quoi. Mais, une fois
Ben
que tu as décidé que ton plaisir, en fait, c'est, bah, en fait, finalement, j'aime bien le chocolat et j'aime bien quand il est non augmenté, on va dire. Mais je l'aime brut. Alors du coup, je l'aime brut. Voilà, là, ça me fait plaisir. Ça, c'est un truc que je savoure. Effectivement, tu vas pas t'enfiler une tablette parce que ça serait écœurant. Mais du coup, ce carré, il est vraiment sympa. Et enfin, ça te détache vachement du truc. Tu redécouvres les fromages. Enfin, déjà parce que bah, si tu manges pas de pain, il y a certains fromages qui s'y prêtent moins. Donc peut-être que tu les délaisses un petit peu pour t'en tourner vers d'autres. Après, moi je trouve qu'ils se mangent tous hein, sans, mais
Ah
il y
oui,
en a
j'ai
qui
pas de
sont plus
problème.
pratiques que d'autres. C'est juste l'idée de se dire, bah voilà, tu vois, par exemple, moi j'ai renouvelé mon amour pour les tomes. J'adorais déjà ça avant, mais tous les fromages tomes, tous les fromages à pâte cuite et tout ça, enfin, c'est des fromages que je sais pas, je mangeais peut-être moins, et du coup là je les redécouvre et tu vois. Et du coup, tu te rends compte, tu fais, mais en fait, le parmesan, ça compte? Et du coup, je peux manger un bout de parmesan direct, comme ça? Bah, c'est sympa. Tu vois, et du coup, tu vas chercher un bon parmesan, un parmesan de dégustation, tu vois.
C'est ça.
Enfin, tu changes ton rapport, je trouve, au plaisir, en fait. Tu vas pas chercher ton plaisir au même endroit.
C'est ça. Moi, quand les gens ils me disent, mais tu prends pas, tu te fais pas des petits plaisirs de temps en temps, mais je leur dis, mais en fait, vous imaginez quoi? Que toute ma semaine, je suis malheureux quand je mange? Pas du tout. Enfin, moi, je prends du plaisir tous les jours avec ce que je mange. C'est juste que mon plaisir, c'est plus le même qu'avant. Avant, je prenais plaisir à manger. Un Kinder Surprise, du Milka ou des pâtes à la bolo, bah maintenant mon plaisir c'est de me faire une poire aux flettes, c'est de me faire du poulet curry avec du riz chou-fleur, bah ça moi je prends un plaisir de fou à manger ça quoi.
Ouais, c'est ça, en fait, c'est quelque part, en fait, c'est se faire plaisir à tous les repas. Sauf que
Exactement.
tu changes ta définition du plaisir, en fait, c'est surtout ça.
C'est ça. Ah oui, non, c'est plus uniquement le plaisir ponctuel, du snack à 4 heures ou, du petit truc sucré des céréales au petit-déj. C'est enfin, vraiment, moi, faut qu'à chaque repas, je prenne du plaisir. C'est important pour moi et c'est le cas, donc.
Oui, voilà, c'est ça. Et ça, c'est vraiment appréciable. De pouvoir se dire, enfin, c'est la notion dont je parlais juste avant, tu sais, de rééducation alimentaire et de se rapprocher, en fait, de ton alimentation. C'est vraiment ce truc que, bah, effectivement, on veut aimer ce qu'on fait, quoi. Parce que, enfin, un truc très strict, même, tu vois, même si tu aimes l'alimentation cétogène, pratiquer une alimentation cétogène très très stricte, genre vraiment 0 glucides, ça peut être compliqué. Si tu veux vraiment rester au zéro, quoi. Et ça peut être dur parce qu'il y a plein de trucs qui du coup passeront pas. En revanche, si tu es assez méthodique sans pour autant complètement te braquer par rapport à un certain ratio, bah là ça va, c'est agréable, tu vois. Si t'as pas besoin de peser chaque aliment, c'est beaucoup plus détendu et ça enlève aussi du coup un élément de stress dans ton alimentation.
Totalement. D'autant plus que le stress est totalement contre-productif. Donc,
Tout à fait. Quand tu t'intéresses à ça, c'est dans un contexte sportif. Tu m'avais dit, enfin, on en parlait avant, mais donc tu as démarré ce projet avec quelqu'un d'autre, qui ensuite a quitté l'aventure plus tard. Et donc vous avez démarré ce blog, en gros, qui avait quoi, juste pour vocation de partager vos recettes, c'est ça?
bah en fait, c'est ça. Au début, je me suis mis, du coup, quand j'ai commencé à faire le défi sans sucre, à publier sur la page de la salle de CrossFit où je vais à Aubagne-Kamenos. Et je me suis dit, bah tiens, je vais aussi les publier en même temps sur Instagram. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui me disaient, justement, du fait de ce défi-là à la salle de CrossFit, qui me disaient, vas-y, repose des trucs et tout, ça me donne des idées, parce que moi, je fais le défi aussi. Donc, je postais. Et puis, en fait, je me suis mis à prendre plaisir à faire des choses qui sont encore plus jolies, et qui donnent encore plus envie, justement, pour motiver les gens à faire le truc, parce que tout le monde disait, oh là là, mais je peux pas, c'est trop triste comme truc, s'il faut enlever ça. Et donc, du coup, je trouvais plaisir à voir que les gens me disaient, ah, tiens, tu m'as presque donné envie de le faire, ah, tu m'as donné envie de le faire. En fait, on peut se faire plaisir même sans. Et donc, et au final, bah, ça s'est fait comme ça. Et ça s'est jamais arrêté. Et vu que mon collègue avec qui je faisais la page avant est toujours d'ailleurs à la salle de CrossFit où je suis, et lui il faisait pareil, on s'est dit bah tiens viens, on n'a qu'à faire une page ensemble, tu viens avec moi, on fait le truc, on fait un site, comme ça au moins on se répartit un peu le temps et les photos. Et puis après lui il a plus le temps, il a eu sa vie avec ses enfants etc, donc du coup il est parti, mais c'est juste ça,
Et donc à la base, il y en a un qui est plutôt sucré et l'autre qui est plutôt salé.
c'est
C'est
ça.
ça le...
Je suis plutôt salé. Et lui, il
Ouais.
était plutôt sucré. Et pour cause, il avait une formation de pâtisserie.
Ça s'expliquera du coup.
Voilà.
Mais par contre, ouais, on t'en parlait juste avant, cette idée de s'être un peu éloigné, enfin d'avoir arrêté de raisonner en fait comme le sucré comme étant un plaisir. Et du coup, en fait, ton plaisir tu le trouves ailleurs. Mais malgré tout, enfin, du coup, toi tu postes encore du coup des recettes qui vont être sucrées, enfin qu'on pourrait en tout cas qualifier de sucrées, hein, même si elles sont pauvres en sucre. Ce qu'on voit beaucoup dans le céto, c'est du coup les sucres. Et ça, c'est un truc qui est quand même, mine de rien, assez commun. Perso, j'ai jamais été trop fan, pour une raison très toute simple, c'est que je trouve que ça devient très difficile de se déshabituer des saveurs sucrées. En soi, j'en utilise quasiment pas, d'ailleurs, enfin, honnêtement, je crois que j'en ai utilisé une fois. C'est-à-dire que quitte à mettre du sucre, autant mettre du sucre. Ou en tout cas, des glucides. S'il va y avoir des glucides, pour moi, ça va être des glucides, et je vais chercher la source la plus naturelle possible. Mais dans l'absolu, j'en utilise pas. Et c'est vrai que du coup, bah, les sucrants, j'ai jamais été trop fan, et j'ai surtout vu pas mal de gens tomber dans le piège. Tu vois, c'est ils vont faire du cétogène, et parce qu'on leur a dit ne mange pas de sucre, on leur a dit ne mange pas sucré. Et bah du coup, ils se tournent vers les sucrants, et du coup, ils se retrouvent à manger sucré tout le temps. Et donc, ils se déshabituent pas du tout, et ce qui fait que bah s'il n'y a pas de sucrant à disposition, bah ça sera du sucre de canne, parce que il faut bien sucrer les choses. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, c'est la vision que j'ai du truc.
Je suis d'accord avec toi. Moi, je l'ai fait, ces recettes, et d'ailleurs, j'en fais pas très souvent, et malheureusement, c'est celle qui marche le mieux sur les réseaux. Mais je l'ai fait parce que moi, l'addiction au sucre, elle est partie. J'en ai plus envie. C'est-à-dire que si moi, pendant un mois et demi, je mange pas de dessert avec un goût sucré, je le vis très bien. Et d'ailleurs, je le dis souvent, mais peut-être qu'il faudrait que je le dise davantage. Mais je dis souvent aux gens que faut qu'ils évitent ça quand ils commencent, parce que ça, on peut se le permettre plus tard. Moi, je le vois davantage comme un moyen, quand on invite du monde à la maison, quand on va chez des gens, de pouvoir leur proposer quelque chose qui les sort pas de leurs habitudes, et qui soit pour autant bon pour moi. Charité bien donnée commence par soi-même, et pour eux. Mais pas pour quelque chose. Je conseille vraiment pas aux gens de se dire, tiens, je me lance dans le céto, faut que je me fasse des bounties céto, des tiramisu céto, des cookies céto, et manger ça tous les jours. Parce qu'en fait, non, on déplace le problème. Le problème étant l'addiction au sucre, elle va demeurer. Ça sera parce qu'en fait, c'est une addiction au sucre, certes, mais c'est davantage une addiction au goût sucré. Et
Tout à
je
fait.
pense qu'il faut d'abord se sevrer du sucre pendant le temps nécessaire pour cela. Et une fois qu'on est sevré du sucre, si de temps en temps on a envie de se faire une pâtisserie ou un machin, on le fait. Mais moi, en tout cas, je le vois pas du tout comme quelque chose qu'il faut faire régulièrement. Il faut vraiment, en tout cas, le faire en pleine conscience et savoir que ça va de nouveau entretenir un rapport au goût sucré qui est malsain. Et donc, faut vraiment le faire avec, entre guillemets, parcimonie. Surtout d'autant plus qu'il y a pas mal de recettes, entre guillemets, sucrées, où pour le coup, on met pas de sucrant. Et donc, où le goût sucré n'apparaît pas vraiment, ou du moins il apparaît de façon très très faible. Donc, c'est déjà des bonnes alternatives.
J'y pensais sur une des recettes que j'ai vues justement sur ton compte Insta, qui était une recette de tarte, et ça me faisait penser au fait que, par exemple, y a un truc qui est vachement bien pour adoucir, ou en tout cas pour créer une notion de sucré, c'est certaines courges, comme tu vois la butternut, la citrouille,
Totalement.
qui ont une saveur vraiment très très douce, et pourtant qui sont assez faibles en glucides, et qui du coup, dans la pâtisserie, peuvent être vraiment intéressantes. Je pense aussi à des choses comme, enfin moi je sais que je le fais pour pour le chocolat, d'utiliser du beurre d'amande en fait, mélanger du chocolat 100% avec du beurre d'amande pour faire une sorte de petite fudge. Et du coup t'as quelque chose qui est super doux, ça calme vachement l'amertume et t'as une sensation de sucré alors que, enfin t'as pas beaucoup de glucides dedans et t'as quasiment
Ah
pas de
oui.
sucre. Enfin il y a plein de techniques comme ça donc tu peux quand même te faire des douceurs. Sans pour autant te faire du sucré, en fait.
Oui, c'est ça. Et ce d'autant plus qu'une fois que justement qu'on est sevré de ce goût sucré, le moindre aliment qui va être un chouïa plus glucidique qu'un aliment classique va te donner cette impression sucrée. Et donc, moi, je force un peu la dose sur les sucrants. Pour les gens qui viennent à la maison et qui sont passés tôt, parce que sinon ils vont me regarder avec une tête d'enterrement en disant, mais c'est amer ton truc. Alors que moi, quand je le mange, je me dis, bah attends, c'est vachement sucré, quoi. Enfin, c'est. Et donc, en fait, on n'est pas obligé, une fois qu'on est sevré du goût sucré, on peut, dans plein de recettes, même le supprimer. Il y en a plein qui n'en mettent pas, d'ailleurs. Hein. Et la recette, elle est déjà elle-même, ne serait-ce qu'avec les glucides, par exemple, du mascarpone, ou les glucides de la farine d'amande, etc. En elle-même, elle a déjà un goût sucré pour une personne qui fait le céto. Donc, c'est pas du tout quelque chose d'absolument indispensable, non, c'est sûr.
C'est vrai que oui, en plus, t'as justement des ingrédients comme ça, un truc que, enfin moi c'est un vrai petit plaisir, avant de passer au cétogène, parce que moi bon, j'ai commencé à faire ça il y a quasiment 10 ans maintenant, mais, et ça a toujours été mon point faible, moi c'est la glace, j'adore ça, tout ce qui est, en gros j'ai toujours aimé les trucs sucrés et froids, voilà, faut pas chercher pourquoi, mais du coup ça fait partie des rares plaisirs que j'aime retrouver. Quand je veux une douceur, j'aime que ce soit une douceur froide en fait. J'aime pas le gâteau tout chaud qui vient de sortir du four, ça m'intéresse pas par exemple. Et du coup, j'ai voulu recréer un peu ce plaisir. Et du coup, je fais en fait, j'utilise des baies congelées ou enfin que j'achète fraîches ou que j'achète déjà congelées et que je mélange tout le long avec du mascarpone comme tu dis. Et en fait, ça va créer ce lien. En gros, enfin pour donner la recette en super simple, hein, c'est une base crème de coco. Mascarpone et le fruit rouge en question. Mais par contre, ça, c'est quand je le fais pour moi, du coup, c'est vachement doux, tu vois, c'est vachement fin. Mais il y a quand même une petite acidité, parce que souvent, les fruits rouges ont cette petite acidité. Quand je le fais pour des gens, souvent, je vais intégrer, à rajouter à ces fruits rouges, je vais rajouter genre une banane. Parce que la banane va
Ouais.
apporter une petite douceur, elle sera jamais en grosse proportion, donc ça reste assez faible en glucides. Donc du coup c'est pas trop gênant. Enfin moi j'ai pas de problématique avec ça parce que je fais pas du céto strict en ce qui me concerne. Mais du coup ça fait peu de glucides. Mais pour les autres ça apporte un sucré qui sinon ils vont se dire ah c'est peut-être un petit peu acide. Alors que moi j'apprécie cette
Ouais,
acidité du fruit rouge. Je la
bien
savoure,
sûr.
je l'aime vraiment. Et en fait limite je trouve que c'est presque dommage que le mascarpone la masque autant. Tu vois. Enfin il y a un vrai plaisir. À trouver cette petite acidité derrière le sucré du fruit, tu vois, j'ai envie de la sentir. Mais je sais que si t'es pas sevré de ces saveurs sucrées, tu peux apprécier d'avoir un peu plus de rondeur en fait au goût quoi. Tu vois, donc et du coup ouais, pour les invités, typiquement j'ajouterais genre une banane. Tu vois.
Non, c'est exactement ça. Moi, par exemple, quand je suis chez moi et que j'ai envie de me faire une crème fouettée, bah, je prends de la crème, je la fouette et pour moi, c'est très bon comme ça. Mais quand j'invite des gens à la maison, si je leur donne ça, ils sont tellement habitués à la crème chantilly qu'on achète,
Qui sera
déjà, ils ont
super
oublié que
douce,
la crème fouettée, il n'y avait pas de sucre, mais la chantilly, il y en a. Ils sont tellement habitués au goût sucré que ça, que si on leur met pas de l'érythritol ou un autre sucrant, ils vont me dire, mais c'est fade, quoi. Alors que moi, ça, c'est mon plaisir. Mon plaisir, je trouve là-dedans, ça me suffit largement, quoi. Une bonne crème fouettée avec juste une bonne crème, alors au lait cru, là, c'est la folie. C'est déjà largement suffisant pour moi. Et moi, je prends plaisir avec ça. J'ai pas besoin d'y rajouter de l'érythritol ou un autre sucre.
C'est vrai que tu, en fait, et du coup, tu me fais, enfin, t'ouvres un peu la porte de là où je voulais aller. C'est la qualité de l'ingrédient. C'est-à-dire que là, tu dis au lait cru, tu vas vraiment trouver cet ingrédient qui remplit les critères gustatifs que tu cherches. Tu vois, qui quelque chose du coup qui va être assez riche. Enfin, typiquement, voilà, c'est comme l'idée d'avoir trouvé un bon mascarpone. Tout comme si tu veux te faire un chocolat 100%, bah, a priori, le meilleur choix, c'est pas le Lindt, hein, qui est un choc. Enfin,
Ça, c'est sûr.
passable quoi, qui est pas très intéressant. Tu vois, du coup,
Non.
tu vas te faire plaisir sur ces trucs-là, aller chercher cet ingrédient un peu plus qualitatif. Tu vois, ah, j'ai trouvé une bonne crème, ben là, je vais pouvoir me faire une bonne crème fouettée, par exemple.
Non, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu disais on redécouvre des aliments, quand tu parlais du fromage, je voulais rebondir. Et effectivement, c'est totalement ça, en fait, parce que dans la mesure où on supprime, entre guillemets, certains aliments, bah forcément, faut en découvrir d'autres, parce que faut bien trouver des accompagnements qui remplacent les pâtes, le riz et les pâtes brisées. Et de fait, moi, parce qu'en fait, moi, faut quand même bien comprendre que jusqu'à mes 24 ans, c'était pâtes, cordon bleu, pâtes, riz, tous les jours. Il n'y avait pas un jour où je mangeais pas 80% de glucides. Et donc, du coup, je n'aimais pas les légumes. Ce qui est quand même assez fort, c'est-à-dire que je ne mangeais aucun légume. Le seul que j'arrivais à manger, c'était les haricots verts. Et du coup, je me suis dit, bah, t'as pas d'autre solution que d'essayer de les cuisiner. Parce qu'en fait, peut-être que tu... Et donc, il y en a plein qui m'ont dit, oui, mais t'aimes pas les légumes parce qu'ils sont pas cuisinés. Je dis, bon, bah, je vais prendre ça au pied de la lettre et je vais essayer de trouver des recettes où ils sont mis en valeur. Alors, j'ai commencé par des légumes que je connaissais, hein, et au final, après, au final, j'ai élargi ma palette. J'aurais jamais pensé un jour manger du radis noir, encore moins des poireaux, parce qu'en fait, les poireaux vapeur, ouais, bah, j'aime toujours pas d'ailleurs, en fait. Mais par contre, une fondue de poireaux, ça j'aime. Et en fait, j'ai découvert plein de légumes que du coup j'aime bien prendre qualitatifs et pas prendre des légumes pourris. Mais c'est surtout au niveau de la viande, au niveau des crèmes, du beurre. Enfin, avant, je prenais du plantafin, donc le problème il était réglé. Je prenais pas de beurre parce qu'on disait surtout pas de beurre. Mais maintenant, j'aime bien, quand je vais au rayon beurre, prendre le beurre qui va être AOP, soit le beurre de Charente, soit le beurre de d'Isigny. La crème, pareil, je suis à la recherche quand je trouve de la crème crue, c'est génial, parce que, en fait, au final, tu vas en consommer d'autant plus, tu vas en consommer un peu moins, parce que tu commences, naturellement,
Il y a moins
ton
d'eau dedans,
rapport à...
donc tu consommes
Il y a
plus
moins
de
d'eau,
crème brute.
et puis tu consommes plus raisonnablement les choses, en fait. Je sais pas comment dire, mais tu sais, souvent on voit les gens, ils font 1 kilo de pâtes et puis il y en a vraiment guingant. Mais au final, quand tu commences à redécouvrir un peu l'alimentation, tu deviens plus raisonnable sur les choses et t'es plus dans la subtilité que dans la quantité pure. Et voilà, l'exemple de la crème, l'exemple du fromage, tu découvres des fromages qui sont au lait cru, parce que du coup, vu que tu peux manger du fromage, tu vas en sélectionner des bons. Et après, au niveau de la viande, c'est pareil. Alors moi, la viande, j'avoue que je vais pas tous les jours chez le boucher parce que c'est quand même un peu onéreux. Mais quand je vais en grande surface, j'essaie de prendre de la viande qui soit labellisée ou qui soit bleu blanc cœur, parce que les animaux ont été nourris aux oméga, donc du coup, ça se retrouve dans la viande. J'essaie aussi de me diriger au-delà de l'aspect qualitatif du produit. J'essaie aussi de favoriser les aliments qui sont riches en micronutriments. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui oublient ça. Ils focusent tellement sur lipides, protéines, glucides, qu'ils en oublient qu'ils peuvent très bien respecter ce ratio à la perfection, mais finalement être complètement déphasés, parce qu'en fait, ils n'ont plus aucun apport de minéraux et de micronutriments. Et donc moi, je vais être à la recherche de, je vais pas, je vais pas manger du blanc de poulet tous les jours parce que ça ne, pour avoir mes protéines, ça aurait pas de sens. Tant qu'à faire, autant prendre un morceau de viande qui soit gras, d'une part parce que c'est bon, et qui soit riche en micronutriments. Idem pour le poisson. Moi, j'essaie de sélectionner les poissons qui sont les plus riches en micronutriments et notamment les sardines, le maquereau, le hareng, les anchois, le saumon, quand je peux. Et au final, tu manges certes tes macronutriments, mais tu nourris tout le reste de ton corps des vitamines et des oligo-éléments, des minéraux dont il a besoin. Et donc, du coup, tu vas sélectionner des produits qui sont encore divers et tu vas en découvrir d'autres. Parce que moi, jamais, j'aurais mangé du foie de morue parce que depuis tout petit, j'entends dire que petit, les gens, ils mangeaient du foie de morue et ça les traumatisait. Et en fait, j'ai découvert ce truc-là et c'est plein de micronutriments. C'est juste dingue, quoi. Juste, tu prends une boîte de foie de morue et t'as tes oméga-3 pour la semaine. Enfin, j'exagère, mais c'est pas loin de ça, quoi.
Ben c'est enfin je crois que après j'ai pas vécu ça, je suis suffisamment jeune de pas avoir subi ça, mais c'était quoi, l'huile de foie de morue, hein, je crois,
L'huile de
qui
foie de
était
morue, ouais, à
proposée, et
l'école, il y
même
avait
pas
une
le
cuillère
foie,
tous les
parce que
matins.
le foie coûtait suffisamment cher que du coup c'était juste l'huile qui était proposée. Mais c'est vrai que ouais, ça fait partie des choses que je connais, comme toi, enfin je connaissais, j'en avais déjà mangé, mais ça m'avait pas, enfin c'était clairement pas dans mon alimentation courante. Et en cherchant du coup juste d'autres choses, des nouvelles choses, en fait, je finis par m'acheter des foies de morue, et je fais, ouais, c'est sympa. Bon, après, je suis
Ah
pas
oui, mais c'est
forcément un
clair.
fan invétéré, mais maintenant j'apprécie, tu vois. C'est un peu particulier, c'est très gélatineux, donc c'est autre chose. Mais
Mmh, mais ça se teste.
c'est bon, en fait. Mais c'est vrai que du coup, c'est vrai que ça t'emmène un peu sur une espèce d'aventure alimentaire, et ça, c'est ça que j'aime, moi, c'est ce qui m'a le plus stimulé là-dedans. Parce que j'ai travaillé en restauration il y a des années, tu vois, enfin ça, j'avais cette curiosité un peu naturelle, et moi je sais que ça m'a vachement guidé dans ma démarche, en tout cas. Mais ce truc de, ouais, de pouvoir t'orienter vers de nouveaux aliments et partir en exploration alimentaire, et te rapprocher aussi de la qualité des aliments, donc
Oui.
vraiment d'avoir essayer de tu augmentes un petit peu le niveau de qualité de ce que tu vas mettre dans ton assiette, parce que c'est vrai que si tu as une démarche santé, enfin si tu veux te faire du bien, tu peux pas juste réfléchir en termes de macronutriments. Ça c'est un premier, enfin c'est un point de départ, quoi. Enfin c'est très bien de commencer par ça. Il
Bien
faut
sûr, ah non,
commencer
mais il
par
faut
ça.
commencer par ça. Mais après, il faut pousser davantage, en fait.
Et une fois que tu l'as adopté, là tu peux commencer à te dire, bah j'ai, oui effectivement, j'ai aussi envie de favoriser des filières d'agriculture qui sont plus respectueuses de l'environnement, plus respectueuses tout simplement des animaux, enfin ou des produits ou des terres, enfin voilà, tu peux commencer à rajouter des critères, et c'est sûr que tu peux vraiment te faire plaisir. Je veux dire, je suis quand même allé jusqu'à Meaux pour m'acheter un brie de Meaux, tu vois, enfin
Ah non, mais
alors
c'est clair,
voilà,
c'est
et
clair.
c'était super sympa, tu vois, enfin, ça m'a fait plaisir. Bon, pour situer, je vis à Paris, donc c'est que 40 bornes, hein, faut pas s'enflammer, mais parce que j'avais envie de me faire un bon brie, bah voilà, je me suis dit, bah, je vais aller acheter un bon brie à Meaux, dans une fromagerie de Meaux.
Bah oui, tant bien faire.
Mais tu vois, enfin, l'idée de se dire, t'es dans tel ou tel coin, bah tu vas aller directement chez un producteur. Par exemple, je sais que, bah, tu vois, tu parlais du sujet de la viande. La viande, c'est cher. C'est pas toujours facile de s'offrir du coup de la viande, mais il s'avère que si tu peux commander en gros chez un producteur, donc du coup tu vas pouvoir sélectionner ton producteur, sa méthode d'agriculture, est-ce que ça correspond aux critères que toi tu souhaites, et donc ça tu pourrais l'étendre, enfin parce qu'on là forcément on imagine tous le producteur de bovins, de porcins, des trucs comme ça, mais ça pourrait être aussi quelqu'un qui produit des fruits de mer, quelqu'un qui produit des poissons, enfin tu vois, que ça peut être un pêcheur, ça peut être, enfin peu importe, ça peut être aussi tes légumes, mais tu peux aller contacter directement quelqu'un qui va produire ça, et donc tu vas pouvoir être sûr de où c'est fait, comment c'est fait, parce que tu vas pouvoir échanger directement avec cette personne,
Bien
et tu te
sûr.
fais livrer, en fait. Je veux dire, des producteurs qui font des trucs très bien autour de chez nous, je veux dire, voilà, peu importe où on vit en France, il y en aura. Après, il y a des régions, peut-être comme la région parisienne, où il faut peut-être aller un petit peu plus loin. Juste parce que bah t'as quand même des kilomètres et des kilomètres de banlieue à passer avant d'arriver au premier champ, mais toujours est-il que c'est globalement faisable. T'es pas obligé
Bien
d'aller
sûr,
à
mais
l'autre bout du monde.
je le fais pour un truc relativement simple, c'est les œufs, c'est peut-être le plus simple en général à trouver. Moi, mes œufs, je vais les chercher à la ferme, et je sais déjà d'une part, je les paye moins cher qu'à Auchan, et en plus, je sais où ils sont pondus, je vois les poules gambader quand je vais les chercher, enfin, c'est juste génial, et donc tu sais que d'une part, tu favorises une agriculture locale, tu sais d'où vient le produit, tu vois la tête des poules, enfin, je trouve ça vachement mieux. De toute façon, quand t'es en CETO, je trouve que, enfin, c'est pas, je trouve, c'est que, il y a plein de gens qui me disent, oh là là, mais c'est compliqué, ceci. Non, en fait, c'est, tout tourne autour des aliments bruts. En fait, moi, je le vois comme un retour. C'est pour ça que c'est pas mal de gens qui passent du paléo au CETO, CETO au paléo, etc. C'est que je le vois vraiment comme un retour à l'alimentation de base. Dans la nature, on trouve de la viande, des légumes, et ben, en fait, on achète ces produits bruts, pas transformés. Donc, de fait, ils sont moins chers que si on les achète transformés. Et après, on les cuisine. Et c'est pas compliqué de les cuisiner. C'est souvent très simple. Une fois qu'on a deux, trois astuces, moi, je suis comme tout le monde, hein. Je cuisine très régulièrement la même chose. Et il y a des fois, il y a deux, trois variantes à faire, mais grosso modo, tout tourne autour des mêmes choses. C'est assez simple, hein.
C'est vrai que quand tu regardes le prix, enfin si on ramène ça sur un sujet très financier en fait.
Bien sûr.
Tu regardes l'idée de combien va coûter, par exemple, un plat préparé. D'accord? Et ben, en fait, déjà, en général, il n'y a pas grand-chose dedans. Il faut avouer. C'est des toutes petites portions, donc tu as assez peu à manger dedans. En termes de nutriments, souvent, les aliments sont assez pauvres, parce que, sans rentrer sur un exposé là-dessus, mais globalement, l'alimentation industrielle est plus pauvre en nutriments. La majorité, en général, des calories sont tirées de glucides. Parce que ça va être, si par exemple tu dois prendre un cassoulet, c'est 80% flageolet et t'as vite fait un petit aperçu, on va dire en special guest, t'as le canard qui a fait un acte de présence, ou pareil pour la saucisse, et du coup tu vas avoir pareil sur tel ou tel plat, tu vois. Enfin, ce sera toujours un peu le même schéma, c'est-à-dire que tu vas avoir une base de glucides qui va être 60 à 70% du plat, et puis
Bien sûr.
Les légumes et viandes vont occuper une toute petite portion. Alors, c'est sûr que si tu devais produire ça, donc le même plat, c'est-à-dire qu'on reste sur l'exemple de notre petit cassoulet, le même plat avec juste tes propres ingrédients, pour produire cette même barquette, donc le même volume d'aliments, ça va te coûter mais une fraction du prix. Ta barquette au supermarché,
Totalement.
elle va être à 4-5 euros souvent. Les plats préparés, ils sont généralement pas donnés. 3 euros pour les moins chers peut-être. Enfin, je suis pas expert en barquette cassoulet, hein, donc faudra pas trop me tenir au prix, mais tu vas pouvoir produire cette même quantité pour une fraction du prix si tu pars des ingrédients bruts. Par contre, c'est sûr que c'est toi qui vas devoir créer la main-d'œuvre de production.
Mais pour une qualité qui sera décuplée,
Ah oui,
c'est
ça c'est
sans
pas foutu.
commune mesure de faire un cassoulet soi-même que de l'acheter en barquette. Enfin, je veux dire, moi, je suis. Alors, il y en a plein, effectivement, souvent, qui me disent que moi, j'achète souvent le riz de chou-fleur au magasin. Mais je l'assume totalement. Mais effectivement, acheter du chou-fleur, je peux le faire. C'est pas compliqué. Et j'ai conscience que je le paye beaucoup plus cher que si jamais je le faisais moi-même. Mais c'est plus un gain de temps qu'autre chose. Mais ça reste un aliment brut. On m'a juste facilité la tâche en le coupant parce que j'ai pas forcément envie de sortir mon robot, d'en foutre partout. Et j'en ai toujours au cas où. Mais sinon, rien ne vaut de se tourner vers des aliments bruts et de les transformer soi-même.
C'est oui, en fait, moi j'aime bien cette démarche d'avoir certains trucs de gain de temps comme ça que tu peux enfin les choses que tu peux stocker, tu vois, congeler ou autre. Donc, ça pourrait être l'exemple justement du riz de chou-fleur. Après, moi j'en trouve pas à côté de chez moi donc c'est pas une option, mais voilà, juste avoir ça sous la main. Je trouve ça pertinent, tu vois, et c'est vrai que dès lors que t'as le temps, dans ces cas-là, tu fais ça toi-même, mais t'as toujours ton stock pour les jours où t'as envie de te faire un petit
Ça.
truc, et voilà, il est à
Parce qu'en plus,
dispo.
il n'y a rien de pire, c'est ce que je dis aux gens, à ceux qui se lancent. Il n'y a rien de pire en fait que d'arriver chez soi, surtout qu'on n'a pas fait le tri dans ses placards, ce qui est le cas de beaucoup de monde qui ont du mal à faire le deuil de ce qu'il y a dans le placard. Il n'y a rien de pire que d'arriver et de se dire, mince, j'ai rien. Parce que dans ce cas-là, généralement, surtout si on est au début et qu'on n'est pas totalement sevré, et ben on va foncer sur le premier truc qu'on trouve, et généralement ça sera pas un truc c'est tôt. Et donc je trouve ça vachement bien d'avoir deux trois trucs toujours au congélateur en réserve, même des plaques chez moi. Moi le, si j'ouvre mon congélateur là, tu verrais il y a, c'est plein de petites barquettes remplies de plaques que je fais, parce que quand je fais des plats, je fais, parce que justement la viande, plus tu l'achètes en grosse quantité, moins c'est cher. Donc généralement j'achète 2,5 kg de poulet ou 2,5 kg de bœuf, et je cuisine plein de plats en sauce. Ensuite je mets ça en barquette, et ça fait que je sors ça au fur et à mesure dès que j'ai pas le temps de cuisiner, ou même quand j'ai le temps de cuisiner mais que j'ai pas envie de cuisiner, et je mange ça au fur et à mesure. Et je trouve ça vachement vachement bien.
Et, mais sans pour autant rentrer dans la pratique du meal prep, donc la préparation de repas en avance, c'est ça? Toi, c'est juste tu te fais à
Non,
manger et puis tu gardes les
c'est
restes,
juste
quoi.
que quand je me fais à manger pour le soir, je vais jamais cuisiner, c'est rare du moins, je vais rarement cuisiner mon plat pour le moment. Ça m'arrive des fois de faire du batch cooking le dimanche, etc. Mais honnêtement, enfin, vu que j'ai une vie de couple, on est à distance, on se voit le week-end, si je passe mon après-midi à cuisiner, c'est dommage. Donc du coup, ce que je fais, c'est que quand je cuisine pour 5 au lieu de moi seul, et ensuite je portionne, je le mets au congélateur, et le lendemain, je refais pareil avec un autre plat. Le lendemain, je refais pareil avec un autre plat. Et ce qui fait que ça m'évite de manger toute la semaine le plat que j'ai fait. Et au fur et à mesure, je vais dans mon congélateur et puis j'ai le choix. Je fais, ah tiens, poulet curry, bœuf sauté, j'ai envie de quoi aujourd'hui. Et puis au moins, je peux choisir quoi. J'ai un peu un panel de différents plats. Et c'est une façon de faire des économies, je te dis, en achetant en gros aussi.
Bah, du coup, cette idée de, enfin, bon là, toi, tu vis seul, donc c'est vrai que c'est, au quotidien, t'as moins à se poser ces questions, c'est ça? Mais par contre, quand t'es en couple, est-ce que c'est quelque chose que
Bah, je
du
suis
coup
en
tu dois
couple, mais du
partager?
coup, on se voit le week-end, quoi.
Ouais, mais quand vous êtes ensemble, est-ce que c'est quelque chose, enfin, est-ce que elle pratique également l'alimentation cétogène ou, enfin, comment ça se passe?
Alors, il pratique
Pardon,
pas
peu
l'alimentation
importe.
cétogène. Oh, mais je t'en prie.
J'ai cru
Il
voir une
pratique pas
femme en
l'alimentation.
photo derrière toi, donc j'ai pris les devants. C'est pour
Non,
ça.
il s'est marié à Carré derrière. Et il pratique pas l'alimentation
Ah oui, effectivement. Oui,
cétogène.
bien vu. J'avais pas
Et
deviné.
il pratique pas l'alimentation cétogène, mais il a une alimentation low carb naturellement en fait. Alors deux fois lui s'il va au pack, enfin, si on va dans un restaurant et qu'il emmène un burger, il prendra un burger. Mais deux naturellement, et c'était déjà le cas quand je l'ai connu, il était plutôt du genre à se tourner vers des légumes, de la viande, des choses brutes en fait. Donc il y a pas trop de changements. Là j'ai su que ce midi il avait mangé des haricots verts et de la viande. Enfin je veux dire. Naturellement, il a une alimentation qui est low carb. Donc, quand il est à la maison, bah, vu que généralement c'est moi qui cuisine, je fais des plats tôt et ça va très bien. Mais c'est aussi lui qui cuisine des fois et il sait que je mange, que moi, en revanche, je suis plus strict. Donc, si jamais il avait d'aventure, il avait envie de quinoa, bah, il le fera le lendemain et il fera des haricots verts parce que je suis là.
Oui, donc du coup, il y a pas le clash de lui, il a envie de se faire des cupcakes parce qu'en fait, c'est pas trop dans ses habitudes, quoi.
Non, et puis franchement, quand bien même, moi ça me dérange pas. Hein. Par exemple, le week-end dernier, il m'a dit oui, j'ai envie de faire des macarons. Je lui ai dit oui, par contre les macarons en cette eau, c'est un peu compliqué. Je lui ai fait mais en revanche, ça me gêne pas du tout. Si tu veux, on se fait une après-midi où on fait des macarons normaux, si t'en as envie. Enfin moi, ça me, j'ai pas de complexe à faire un truc que je pourrais pas manger. Ça me gêne pas du tout. Si jamais ça lui fait plaisir de faire samedi macarons, on se fait un samedi macarons.
Ouais, bah c'est l'avantage que surtout au bout de 5 ans, j'imagine que t'as moins cette, enfin t'as pas cette tentation en fait permanente.
Ah non, totalement. Totalement. Non, ben, là, je pourrais te montrer, j'ai un œuf Kinder qui trône dans mon salon, mais c'est pas pour moi, c'est pour l'offrir. Enfin, ça me fait ni chaud ni froid de le voir ici. J'ai mes placards qui sont remplis de chocolat qui sont pas du tout cettos, qui viennent de grands chocolatiers dont je tairai le nom, mais parce qu'on me les a filés et du coup je les sors quand j'ai des invités pour le café, etc. Mais effectivement, quelqu'un qui n'est pas totalement sevré, il voit ça, il plonge dedans.
En tout cas, il y a une vraie attraction, ouais, c'est sûr.
Ah oui, c'est sûr. Totalement.
C'est sûr qu'on change vachement notre façon de voir l'alimentation dans des situations comme ça. Enfin, toi, quand tu t'es complètement sevré du truc, c'est vrai que moi, je regarde. Enfin, ma compagne est diabétique, donc on a tout le temps des bonbons à la maison. Genre, j'ai des boîtes entières de bonbons dans mes placards. Bah, ça me viendrait même pas à l'esprit d'en manger. Hein. Vraiment, ça m'attire pas du tout. Tu vois, enfin, il y a d'autres
Ouais.
plaisirs. Enfin, parce que bah pas ce truc de besoin de sucre en fait, tout simplement. Donc ouais, je comprends tout à fait le truc d'avoir justement, bah, soi-disant, cette tentation en fait sous le nez, mais tu deviens insensible à force.
Ah mais totalement, j'ai des lutis, j'ai des haribos, j'ai plein de choses, j'ai même des spaghettis parce que quand t'invites des gens à la maison, au dernier moment, des fois t'as pas le temps, toi t'avais prévu de te faire une bolo, alors ta bolo elle est toujours d'actualité, mais le problème c'est qu'il leur faut un support et t'as pas forcément non plus envie, surtout vu le prix du chou-fleur en ce moment, de faire du chou-fleur pour tout le monde. Donc du coup tu sors un paquet de pâtes, ça les dérange pas, et puis en avant, et puis je vois pas le problème, quoi.
Oui, c'est ça, je pense que c'est ne pas imposer en fait forcément ce que tu fais aux autres, et du coup vu de toute façon tu manges rien d'exceptionnel, hein. Tu manges des légumes et des viandes, voilà. Globalement tu vas pouvoir
C'est
trouver
ça.
des heureux à peu près partout, et puis tu peux juste
Exactement.
rajouter un féculent effectivement pour bien aller avec. Bah, ça me
Exactement
fait
ça.
penser du coup au sujet, enfin, parce qu'aujourd'hui on fait un petit peu moins de repas à la maison entre amis, parce que bah, pour situer le contexte pour ceux qui écouteraient ça un petit peu plus tard, on est donc sur la deuxième vague de confinement en France en 2020, donc effectivement pas trop de fêtes à la maison, donc pas trop l'occasion de sortir les spaghettis pour aller avec sa bolognaise. Comment est-ce que toi tu vis ça en fait aujourd'hui, le fait de moins pouvoir sortir puisque les établissements sont fermés? Comment est-ce que tu en gros, enfin, vu que tu aimes bien préparer, j'imagine que ça te donne l'opportunité de le faire, mais enfin, qu'est-ce que ça change pour toi en fait dans ta pratique alimentaire, le fait d'être un peu plus confiné, même si aujourd'hui c'est un peu plus light, on sort quand même pas mal pour bosser et compagnie.
Bah, ça change pas grand chose au-delà du fait que je prends plus le temps de cuisiner et de faire des choses que j'aurais pas forcément fait avec l'occupation habituelle. Mais moi, ça change pas grand chose. Effectivement, je vais peut-être faire davantage de desserts avec des goûts sucrés, etc. pendant le confinement. Parce que qu'on le veuille ou non, on s'emmerde un peu et la nourriture, quand on s'emmerde, c'est toujours agréable. Mais oui, je vais prendre plus le temps de me faire des choses que je ferais pas d'habitude. Je vais plus travailler certains produits, alors que d'habitude j'arrive, je balance mon poulet dans la poêle, je tourne et puis c'est pas très recherché quoi. Comme la majorité des gens, parce qu'il faut bien aussi que les gens aient conscience que nos blogs ne sont pas le reflet de nos repas de tous les jours. Moi ça j'aime le dire parce que c'est vrai que des fois il y a des gens qui me disent oh là là mais je serais incapable de cuisiner ça tous les jours, mais moi je leur réponds mais je ne cuisine pas ça tous les jours. Je suis comme tout le monde, des fois je sors du blanc de poulet, je le mets dans la poêle, je sors des courgettes, je les fais revenir et puis c'est tout, hein. C'est pas à chaque fois des présentations, c'est juste que j'en fais plein et je les prends en photo et je les poste au fur et à mesure. Et c'est vrai que j'aime bien le rappeler parce qu'il y a ça peut effrayer certaines personnes qui se disent mais moi je pourrais jamais faire ça. Mais rassurez-vous, ce n'est pas un miroir de mon quotidien, que ce soit le midi ou que ce soit le soir.
Ouais,
Mais là,
mais c'est
effectivement,
sûr.
pendant le confinement, je peux presque me faire à chaque repas, une belle assiette, un joli plat, etc. parce que j'ai plus de temps pour ça.
Ouais, c'est ça. Puis enfin, autant t'as des trucs qui sont super faciles enfin super rapides à préparer. Autant ouais, il y en a qui prennent vraiment, enfin, qui peuvent être vraiment très très longs, tu vois. Tout à l'heure je citais tes trucs que t'avais fait une tarte, bah, la tarte ça prend plus de temps, tu vois, donc il faut avoir le temps de
Ben oui,
faire cuire ta
totalement,
tarte, et
totalement.
tu vois, c'est
Moi,
comme
je fais très rarement des tartes
ouais.
parce que j'ai la flemme. Je dis clairement, j'ai la flemme.
Bah, je crois qu'une des recettes, on va dire, vis-à-vis de ce dont on parlait avant, c'est-à-dire, c'est, tu sais, d'imiter des choses qu'on mangeait avant le cetto, une de celles
Oui.
que je déteste faire, c'est la pizza. Du coup, essayer de faire des substituts de pizza, j'ai essayé mille et une versions, il y a des trucs super sympas, mais dans l'absolu, ça me gonfle, c'est chiant à faire. Vraiment, c'est
Ah oui, non, je
long.
comprends. Ah
Ouais.
oui, non, c'est clair, c'est clair. Ouais, c'est tellement plus simple, que ce soit pour la pizza ou même pour la quiche, de sortir une pâte feuilletée.
Oui.
Alors, on l'aurait peut-être vécu différemment à l'époque de nos grands-parents, parce que moi, je sais que ma grand-mère me raconte souvent cette anecdote, que quand elle est arrivée en France, on est malgache, elle est arrivée de Madagascar, elle est arrivée en France, elle me dit, j'ai envoyé une lettre à ma mère en lui disant, oh, quand tu viendras en France, tu verras, ils ont des pâtes brisées, des pâtes feuilletées déjà faites. Et c'est pour elle, c'est une révolution. Donc peut-être que elle, ça ne l'aurait pas changé en soi parce qu'elle a été habituée toute sa vie à le faire. Mais nous qui avons connu la pâte à pizza qui a juste à dérouler et à machin, effectivement, sortir 25 ingrédients, que ça te prenne un quart d'heure juste pour la faire, t'as pas envie. Effectivement, c'est des... et c'est là où... D'ailleurs, c'est au début tu le fais parce que tu as envie de retrouver des sensations. de rester un peu en terrain connu, ça te rassure, tu te dis, ah, je mange une pizza, etc. Mais plus le temps passe et moins justement on est à la recherche d'avoir des aliments qui ressemblent à nos anciens aliments. Et au final, on le fait de moins en moins et on se prend moins le chou, hein.
C'est ça, moi j'ai enfin, c'est quelque chose que je fais très très peu maintenant, mais par exemple, c'est vrai que sur ce truc de la gestion au quotidien, enfin, il y a plein de recettes que j'ai dans mon arsenal de choses un peu quotidiennes qui prennent mes 2 minutes. Le repas de la flemme chez nous, c'est la salade de conserve avec genre gésier, haricots verts, je sais plus quoi d'autre. Enfin bref, c'est toujours un peu les mêmes bases quoi. Les trucs qu'on a tout le temps dans le placard et on fait genre des œufs durs. Voilà. Et
Oui,
c'est la salade de la flemme. Ça prend 10 minutes à préparer. Quand on a plus le temps, on fait des trucs un peu plus sympas, tu sais, genre des petits gratins au four, des trucs comme ça prend 20 minutes, tu vois. Mais bon, après, c'est sûr que, ouais, au quotidien, c'est pas, t'as pas, on a des vies tellement chargées maintenant que c'est parfois un peu dur, de faire la grande cuisine tous les jours, quoi. Et donc, dans ce moment, c'est quoi le coup de cœur du moment en cuisine pour toi?
le coup de cœur du moment en cuisine pour moi, en ce moment, j'ai une passion dévorante, alors que j'avais déjà à l'époque où je mangeais n'importe quoi. Et là, elle est revenue depuis que j'ai trouvé une recette de panure. Je fais du poulet frit tous les 2 jours.
Alors du coup
J'ai des
c'est
envies de poulet frit, quoi. Je sais pas si je suis enceinte ou quoi, mais j'ai des envies de poulet frit. J'ai posté une recette il y a peu de temps, d'ailleurs, de ça. D'ailleurs, elle a cartonné. Et moi, là pour le coup, j'en mange très souvent et j'en poste pas autant parce que les gens se diraient, il est complètement fou de manger autant de poulet frit.
tu fais ta panure sur quelle base hein, du coup? Si c'est pas à base de
Et ben là,
farine de blé.
d'habitude, je la faisais à base de couenne de porc mixée. Et là, du coup, j'ai trouvé sur des sites américains qui ont été repris sur des sites français, etc. Une à base de isolat de protéines, la
D'accord.
whey qu'on prend ceux qui font du sport pour certains, tout simplement nature, et en fait dans lequel on met des épices. Alors on met les épices, moi j'ai mis les épices façon KFC, dont la recette a été visiblement dévoilée sur Internet. Je sais pas si c'est la vraie, mais
Ouais,
en tout cas
suffisamment
moi qui ai
proche,
travaillé pendant un, moi qui ai travaillé longtemps à KFC, je trouve que ça se rapproche
ouais.
vachement du goût de ce que je mangeais là-bas. Et c'est juste génial. Il suffit juste de tremper son poulet dans l'œuf et ensuite dans la whey avec des épices et en avant dans le vinaigre. Et c'est assez bluffant la texture que ça a, quoi.
J'ai jamais cherché à faire comme ça. Moi, j'ai toujours fait plus simple. Enfin, j'ai jamais cherché à vraiment recréer, tu sais, le poulet frit ou quoi que ce soit. Mais j'aime bien faire des panures toutes basiques avec, tu sais, farine de coco et noix de cerneau écrasées en fait.
Ouais.
Super basique, hein, je veux dire vraiment rien
Ben
d'autre quoi.
moi, j'ai jamais fait de panure avec de la farine de coco. Je serais curieux de voir le goût que ça.
Ben on l'a fait hier sur du poisson. Ça marchait très bien, juste avec mais
Ah
vraiment
ouais.
que ça. Là pour le coup, c'était la version la plus basique. Aucun mix particulier. Et en soi, ça marche bien. Enfin, c'est pas bien dur quoi. Mais bon voilà après.
Faut ça essayer.
Mais du coup, donc à dorer dans la poêle là pour le coup. C'est pas pour faire de la friture, hein, pour en parler. Voilà.
Oui.
C'est pas le même principe. Mais ça marche bien au four aussi. Je me souviens
Ah bah ça,
quand
je ne
j'étais en
savais.
restauration, on utilisait pas mal des cerneaux de noix dans les panures parce que ça donnait vachement plus de goût et en plus ça donnait une espèce de doré qui était vraiment appréciable. Donc une belle couleur. Du coup voilà juste le fait d'écraser des noix en fait alors ça c'était dans un mélange de pain hein. Donc
Une
t'avais la
chapelure.
panure voilà t'avais une petite chapelure mais tu rajoutais des cerneaux de noix dedans ce qui rendait le truc un peu plus riche ça donnait plus de goût enfin ça avait une belle odeur en plus hein, ce goût un peu fumé de la noix tu vois donc ça marchait vachement bien mais on les faisait au four on les faisait jamais dans l'huile donc c'était encore un
Ah
autre
oui,
style tu
exact.
vois.
Moi j'ai pour habitude de faire ça, c'est des cuisiniers qui m'ont toujours donné ces conseils, c'est de commencer la cuisson dans la friteuse ou du moins dans une bonne dose d'huile. Une fois que c'est bien doré, que ça a la coloration, de terminer la cuisson au four, parce que en fait sinon ta panure elle crame et la viande intérieure elle est crue, quoi.
Ouais, c'est
Ou
ça.
pas forcément, ou pas assez cuite. Et ça vaut pour plein de choses d'ailleurs, même pour la cuisson de la viande. On m'expliquait qu'en fait il y a beaucoup de viande qu'il faut snacker et dont après qu'on termine la cuisson au four et qui sont bien meilleures comme ça.
Ouais, parce que tu peux avoir ce joli petit grillé en plus, Surtout si t'as des pièces un peu épaisses, tu vois, genre un onglet
Et
un peu
oui.
costaud, tu vois, enfin, il lui faut cet apport de chaleur doux, et si tu le fais dans une poêle, bah effectivement, tu vas cramer en fait la surface de contact, hein,
C'est
sans
ça.
avoir apporté de la chaleur sur le reste de la viande. Ouais, c'est sûr, hein, c'est sûr. Bah écoute, je mettrai tes petites recettes de roulé pané, de poulet, ah, de poulet frit, de roulé pané, je sais pas ce que c'est, mais ouais, de poulet frit en lien, je suis sûr que ça intéressera des gens. Mais
Ah bah
c'est
carrément.
marrant en fait, tu vois, je trouve que dans cette quête, tu sais, quand tu te retrouves dans un peu cette démarche d'exploration alimentaire, tu découvres des trucs forcément parce que tu passes ton temps à te dire, ah tiens, et si je faisais ci, si je faisais ça, parce que t'as les mains dedans, quoi, en fait, ça revient à devenir un peu artisan, et donc tu passes plus de temps à y réfléchir, et parce que tu passes plus de temps à y réfléchir, bah régulièrement tu te dis, tiens, j'aimerais bien faire tel truc, tu vois, et tu te dis, mais comment je pourrais faire, et tu vois, et du coup d'aller, tu vois, aller chercher des solutions. Donc c'est vrai que ça peut facilement devenir un passe-temps. Après, c'est sûr que tout le monde s'investit pas dans la, tu vois, tout le monde qui va se lancer dans cet OGM ne va pas forcément s'investir de la même manière,
Ah bah non.
mais tu te rapproches quand même de ton assiette, quoi. Donc je pense que ça, tu te retrouves un peu automatiquement obligé à réfléchir un peu plus, même si tu ne deviens pas forcément le roi de la cuisine. Enfin, tu vois, c'est pas une vocation pour tout le monde, quoi. Il y a des gens qui se fait chier.
Ah oui, non, c'est clair, c'est clair. Et c'est pour ça qu'il y en a plein qui sont contents d'avoir pas mal de blogs sur Internet qui partagent des recettes, qui font les recherches à leur place. Parce qu'au moins, ça leur arrive tout cru et c'est le but de l'opération. Enfin, moi, si je peux aider des gens qui n'ont pas d'idée, c'est ma seule récompense et j'attends rien d'autre.
Bah écoute, moi ce qui m'intéresserait, un petit sujet sur lequel j'aimerais qu'on touche peut-être avant de conclure pour aujourd'hui, ce serait du coup si tu as dû faire des adaptations à ton alimentation par rapport à ta pratique sportive, parce que du coup tu as continué ta pratique de CrossFit, c'est ça? C'est pas
C'est
quelque chose
ça.
que tu as arrêté. Et est-ce que tu t'es vu adapter ton alimentation spécifiquement vis-à-vis de ça?
Pas du tout.
Ouais.
J'ai absolument rien changé. Moi, je m'entraîne tous les jours, bon, sauf le samedi et le dimanche. Je m'entraîne tous les matins à 7 h. Des fois à jeun, des fois pas à jeun. Je fais pas partie de la secte de ceux qui pensent qu'il faut absolument faire le jeûne intermittent, etc. C'est comme chacun le ressent. Il n'y a pas de règles et d'obligations. Et que je sois à jeun ou pas à jeun, mes performances, c'est les mêmes. Et plus globalement, quelle que soit l'heure de la journée à laquelle je fais mon sport, j'ai jamais de difficulté. Et j'ai vraiment rien changé j'ai pas du tout adapté mon alimentation cétose. C'est-à-dire que quand j'ai commencé le cétose, je faisais du CrossFit. J'ai continué à en faire. J'ai rien modifié, enfin, dans mon entraînement, mais l'alimentation sert forcément vu que je suis passé en cétogène. Mais sinon, par la suite, je me suis pas dit, ah tiens, j'observe des baisses de performance, peut-être qu'il faudrait. Non, pas du tout. Mes performances se sont. Alors, je dis pas que je suis un dieu du sport, loin s'en faut, parce que moi, je le vis plus comme un sport plaisir et je suis pas à la recherche de la surperformance, etc. Je sais que par exemple, Olivier, qui est Low Carb Frenchy, pour ceux qui suivent, que tu avais déjà interrogé. Lui, il est plus performeur, si je puis dire. Moi, je suis vraiment plus dans le plaisir et donc je progresse à mon rythme tranquillement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je régresse pas. J'ai pas régressé parce que j'ai pour habitude de noter tous mes scores et mes temps que je fais. Et bah, depuis 4 ans, d'année en année, ils progressent à leur rythme tranquille. Donc voilà, je me base sur mon expérience personnelle. Peut-être que certains ont des approches différentes et te diront qu'il leur a fallu peut-être plus de protéines ou plus de ceci, plus de cela. Moi, ça s'est très bien passé et au niveau sportif, j'ai pas eu besoin de quelconque complément. D'ailleurs, je ne prends aucun complément,
Bah c'est mais c'est ouais
qu'il soit.
c'est bien d'entrer dans ce sujet-là, parce que c'est vrai que dans une pratique sportive, et ça dépendra ensuite des sports que chacun pratique, c'est vrai que pour le travail de force, du coup enfin le CrossFit, je classifie plutôt ça dans la catégorie travail de force, vu qu'on est moins dans les efforts d'endurance, le travail de force effectivement se prête remarquablement bien à une alimentation cétogène, tout simplement parce que bah on a un besoin d'apport protéique pour la réparation musculaire. L'excédent protéique est souvent transformé en glycogène, donc du coup tu retrouves du glycogène enfin tu développes du glycogène pour la partie intense en tout cas de l'effort. Et effectivement, si tu es sur une pratique quotidienne en semaine, tu vas pas être non plus tu vas pas être à 95% de ton max chaque jour, au contraire, tu vas plutôt être à 50-60. Parce qu'en fait, tu t'entretiens, même s'il y a des pics d'intensité, l'effort global reste modéré, et donc tu vas pas épuiser tes réserves. Enfin, même tu feras peut-être moins de glycogène que quelqu'un qui consommera des glucides, mais tu vas aussi moins taper dedans parce que bah t'as l'autre carburant à côté déjà d'une, et sur du quotidien, bah t'es pas en train de maxer à ce point-là, quoi. Donc sur
Exactement.
l'effort d'endurance, c'est un peu plus particulier. Ça dépend comment tu le fais, quoi.
Ça, je peux pas dire parce que je ne pratique pas de sport d'endurance, mais je sais qu'Olivier, lui, il en pratique et c'est même plus de l'endurance à ce niveau-là. Enfin, moi, je vois ça, ça me dépasse.
Ouais, non, lui, c'est vrai que c'est un vrai passionné de l'ultracyclisme. Mais non, ouais, dans la pratique, dans les pratiques sportives, en fait, dans l'absolu, enfin, l'alimentation cétogène, en fait, est super complète. Parce qu'en fait, si tu as un bon apport protéique, tu auras souvent un excédent protéique, qui du coup va devenir du glycogène. Donc en fait, on s'y retrouve, quoi. Tant que c'est
C'est
pas
ça.
dans le.
Et
Voilà.
donc au pire, il va y avoir un excédent de glycogène qui doit m'arriver parce que j'ai plutôt tendance à manger davantage de protéines. Mais de toute façon, il est vidé quasiment instantanément le lendemain quand je vais aller faire ma séance de sport. Et sachant qu'on estime que c'est au bout de 30 minutes qu'on épuise les réserves de glycogène, 30-45 minutes à peu près. Donc en
Ouais,
gros,
après, voilà, et ça dépend encore
au
vachement de ce
pire,
que tu fais.
elles seront utilisées. Et puis voilà. Et il n'y a pas de souci là-dessus.
Bah écoute, merci beaucoup Nico d'avoir partagé tout ça avec nous. Moi j'ai trouvé ça intéressant et c'est une bonne occasion de repartir un peu là-dedans. Donc du coup pour ceux qui vont entendre cet épisode à sa sortie, donc normalement là on est le 4-11, il devrait sortir donc le samedi d'après, je sais plus quelle est la date. Ça sera l'occasion de faire du poulet frit, ça va être pas mal ça. Petite opération, petite recette à tester. Mais ouais, merci d'être venu partager ça un peu avec nous. Je voulais qu'on reparle en
Ben,
plus
merci à
de
toi de m'avoir interrogé.
ça. Je voulais qu'on reparle de un petit peu de cette eau en fait sur cette saison, en tout cas sur cette situation-là, parce que c'est vrai que les gens ont un peu plus de potentiellement un peu plus de temps chez eux. Et s'il y a bien un moment où on peut se lancer, c'est le moment où tu as un petit peu plus de temps à la maison pour pouvoir travailler dans ta cuisine.
Totalement.
Donc c'est l'occasion parfaite. Et du coup, bah, je mettrai le lien vers ton blog et vers ton compte Instagram pour ceux qui voudraient avoir des idées de recettes. Bah écoute, on va donner le mot de la fin peut-être. Mais ça serait pour toi si quelqu'un voulait se lancer un petit peu là-dedans, qu'est-ce que tu, sur la base de ta propre expérience en fait, hein, qu'est-ce que tu considérerais comme étant les premières choses à explorer peut-être, tant en termes de ressources que. Enfin, tu m'as cité un bouquin tout à l'heure qui était le grand livre de l'alimentation cétogène, est-ce qu'il y a d'autres bouquins vers lesquels tu rentreras les gens, puisque toi t'as lu par exemple?
Honnêtement, pour moi, pour commencer, c'est le plus important. J'ai pas le nom des autres en tête, et c'est certainement parce qu'ils ont été moins intéressants, du moins ceux que j'ai lus. Mais si vraiment j'avais un conseil par rapport à ma propre expérience, moi je sais que je me suis beaucoup contrarié pour des histoires de grammage, etc. Et si j'avais un conseil à donner aux gens, c'est de ne pas se prendre la tête, vraiment. C'est-à-dire que de focaliser sur les glucides, c'est-à-dire que s'ils veulent commencer, qu'ils commencent par regarder, qu'ils prennent un tableau des légumes qu'on croise un peu partout, qu'ils regardent leurs valeurs, et une fois qu'ils ont fait ça, ils savent, ils sauront, et c'est là-dessus qu'il faut se focus sur les glucides, et ensuite, une fois qu'on s'est focus sur les glucides, on se prend pas la tête, on n'est pas obligé de calculer tout le reste, parce que sinon ça devient prise de tête et on bascule pas dans le trouble du comportement alimentaire, mais pas loin. Enfin, je pense qu'il faut vraiment que ça reste une alimentation plaisir, parce que l'alimentation ça reste avant tout un plaisir et pas une contrainte, et vraiment pas se prendre la tête si jamais on n'a pas de besoin thérapeutique pour ça.
Bah super, bah merci pour ce petit conseil. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Bienvenue à la fin de l'émission, le moment où je vous remercie de votre écoute, mais aussi le moment où je vous redemande de nous suivre sur Instagram, @sermondhypocrite tout attaché, sur la page Facebook de l'émission, d'aller laisser une note sur Apple Podcasts. Il paraît que vous recevez une surprise si vous mettez 5 étoiles. Si vous voulez en savoir plus sur mon travail de coaching santé, rendez-vous sur benviolo.com. Merci à tous et à bientôt pour un prochain épisode.